Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, il fallait être bien réveillé hein, ce matin après la victoire du 15 de France hier face à l'Australie. Philippe Saint-André a défié le froid hier au Stade de France et il en est revenu pour être avec nous. On te remercie pour ça.
C'est un plaisir, toujours.
T'es venu avec tes fèves en plus ce matin que tu distribues à tout le monde. Philippe est là, David Douillet est là aussi, et Sarah Pitkowski, Simon Dutin. Je rappelle, vous pouvez retrouver la deuxième heure des grandes gueules du sport en podcast sur toutes les plateformes. Dans un instant, les GG sur le buzzer. Fabien Galthié sort-il fragilisé de cette tournée? On va se poser la question. Et puis, c'est l'événement sur RMC. On vous offre 120 000 euros, la plus grosse somme d'argent jamais offerte sur RMC à gagner. 120 000 euros! 100 000 euros pour vous, 20 000 pour la personne de votre choix. Alors, restez bien à l'écoute sur RMC. Ça peut tomber à tout moment. Rendez-vous, tiens, dans moins d'une demi-heure pour vous inscrire, donc restez bien avec nous et parlez-en aussi autour de vous. Le ski à Gurgel, le slalom féminin après la réussite française hier, Léna Marjac, est-ce qu'on a autant de réussite avec nos filles aujourd'hui?
Malheureusement c'est un petit peu plus compliqué, c'est ce qu'on disait ce matin, il fallait s'adapter à cette neige, à cette piste qui a marqué, et malheureusement pour Marie Lamure et Marion Chevrier, elles sont assez loin, 14e provisoire pour Marie Lamure, 17e pour Marion Chevrier, à plus de 2 secondes et demie de la tête de course. La tête de course dominée par Michaela Schifrin, une nouvelle fois l'américaine qui est en tête dans cette première manche avec 3 dixièmes d'avance sur l'albanaise Lara Colturi, et la suissesse Camille Ras vient compléter le podium. Alors il nous reste encore 2 françaises à passer mais qui s'élancent avec des gros dossards, et quand je vois l'état de la piste déjà sur cette piste de Gurgel, ça s'annonce compliqué, parce que Caitlin McFerlane part avec le dossard 43 et Dorian Escanet avec le dossard 48, donc on va suivre ça. Mais aujourd'hui, conditions compliquées pour nos Françaises. Elles ont du mal donc à s'adapter. Elles prennent peu de risques. Et donc, ça se voit et ça se paye dans les temps.
On surveille tout ça avec toi, évidemment, Léna, pour la suite de ce slalom dans le Tyrol. Je vous rappelle l'information majeure de la matinée. Elle concerne la Formule 1. Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Las Vegas devant Lando Norris. Oui, mais les McLaren, celles de Norris et Piastri, ont été disqualifiées il y a quelques minutes pour une infraction technique. Je vais le résumer comme ça. Je ne vais pas la faire à la Jean-Luc Roy. Infraction technique pour les McLaren. Ça veut dire qu'ils marquent 0 point à Las Vegas, et ça veut dire surtout qu'à 2 grands prix et un sprint de la fin de saison, Verstappen revient à 24 points au championnat du monde. Je vous le redis parce que j'ai énormément de réactions sur le WhatsApp des grandes gueules du sport, évidemment, avec Xavier qui nous dit comment McLaren peut avoir fait une telle erreur. On a certains conspirationnistes évidemment qui nous disent la FIA fait ça pour avantager Verstappen. Alors on retrouve ceux qui n'ont toujours pas, on va dire, accepter le titre face à Hamilton il y a quelques années. Donc voilà, Samir également qui nous envoie des messages. Évidemment, je pense que ça va nous alimenter les 2 prochains week-ends et le Stephen Brunch tout à l'heure avec Stephen Brun à 13h. Évidemment, on va largement revenir dessus tout au long de la journée avec toutes les informations. Tout de suite, les grandes gueules. Ce qu'on va faire, on va retrouver un petit peu de tranquillité. On va aller en cuisine. Tiens, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Ben oui, vestiaire en cuisine, hein, du dimanche, comme ça, tranquille, entre nous. David, je rappelle en plus, a publié, en tout cas a fait paraître un livre avec ta compagne Vanessa, en cuisine avec Vanessa et David Douillet, 87 du quotidien, aux éditions Flammarion. Un beau cadeau pour Noël, hein, d'ailleurs, c'est un beau livre, hein, franchement, avec plein de recettes que Sarah étudie depuis tout à l'heure. Et on s'est dit que c'était l'occasion, en plus il fait froid et on a besoin de plats réconfortants, de parler bouffe et de bonne bouffe. L'occasion de parler de votre rapport de la nourriture pendant votre carrière, les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça, le sport de haut niveau et le plaisir de la bonne bouffe. Commencez en vrai. Vous êtes tous à peu près de la même génération, là. Il n'y avait pas forcément de nutritionniste. David, on va commencer par toi, qui était dans une catégorie où tu pouvais te permettre ce que tu voulais, plus ou moins, en judo. La bonne bouffe, tu te limitais ou tu y allais franchement quand tu étais en activité?
Ah, moi, je calculais pas, j'y allais franchement. Et d'ailleurs, mon premier bilan nutritionnel, après mon premier titre mondial, c'était juste une catastrophe, puisque globalement, la diététicienne me dit, bah, c'est simple, monsieur Douillet, vous mangez des gâteaux, des pommes de terre et de la viande rouge. Et puis, c'est tout. Voilà, pas de laitage, pas de fruits, pas de légumes, rien. Et c'est même invraisemblable que vous puissiez faire ce que vous faites, quoi. C'est pas possible. Alors, évidemment, faut pas faire ça, hein. Donc après, j'ai varié mon alimentation. Je digérais beaucoup mieux, mais j'étais pas plus en forme pour ça, hein, très honnêtement. Donc voilà, il faut se faire plaisir en fait. Il faut avoir une période où on fait gaffe, faut prendre le carburant dont on a besoin pour les muscles, le carburant et puis pour reconstruire les muscles. Ça c'est un peu technique, mais psychologiquement c'est aussi important de se faire plaisir en s'accordant des petits travers.
Bon là il y avait beaucoup de travers quand même. Il y avait beaucoup de travers. Non mais par exemple je sais pas. avant les jeux.
Tu t'envoyais
quoi?
Il y a un truc sur lequel.
Tu t'envoyais 10 turbos.
Il y a un truc sur. Non. Mais il y a un truc sur lequel il faut faire gaffe, c'est alors la nourriture c'est une chose, mais après c'est ce qui accompagne l'accord mais vin, tu vois, sur le vin et l'alcool, faut faire hyper attention pour le coup.
Ouais, non mais sincèrement, c'est fantastique. On est sur une émission de sport, il nous dit il faut faire attention. Alors je pensais qu'il allait dire sur les équilibres protéines glucides. Non, accord mais vin.
Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération. Mais vin. Fromage, oui. Tu vois, ça c'est important
oui,
aussi.
Oui, par exemple.
Oui, par exemple.
Philippe, la notion de s'accorder quelques plaisirs, je crois que tu suis David, non Philippe?
Oui, je suis David, mais bon, moi j'étais obligé de faire attention durant ma carrière.
Ah ouais.
C'est pour ça qu'après j'ai pris beaucoup de kilos quand ma carrière a été finie.
Et ouais, lâché, quoi.
Non, et ben c'est sûr que quand t'es David, lui, il était hors catégorie, donc lui, il n'avait pas ce problème de poids. Moi, je savais que si je passais au-dessus des 92 kilos, eh ben j'étais pas bien, j'étais moins explosif, j'étais moins rapide, donc j'étais obligé de faire attention. Par contre, sur la nourriture et le plaisir, j'avais un préparateur physique anglais, j'ai bossé 7 ans avec lui, il était pénible avec les joueurs, c'était invraisemblable. Par contre, la veille du match, il offrait une tarte avec un sorbet. Alors je lui dis, mais t'es pénible tout le temps. Et là, la veille, il me dit, oui, mais ça, c'est le plaisir, c'est l'anti-stress.
Ah oui.
Pour que les joueurs ne soient pas stressés le lendemain, et ben là, on leur fait plaisir. Mmh. Donc, il était pénible durant toute la semaine. Mmh. Et la veille du match, je dis, comme ça, ils vont bien dormir, etc. Et les mecs, ils couraient au dessert. Tu vois, je veux dire. Ils disent, enfin du plaisir. Et donc, le plaisir est aussi important dans la compétition et même pour des sportifs de haut niveau.
Mmh. Sarah?
Moi, j'avais pas vraiment de problème de poids puisque j'étais un petit gabarit, mais c'est vrai qu'on n'était pas accompagné. Et moi, je mangeais absolument n'importe quoi. Mais n'importe quoi, mais surtout pendant les matchs. J'avais des stocks de sneakers dans mon sac. Je suis en vente de côté.
Ouais, je vais dire Mars et Twix hein, pour avoir et deux autres marques.
Exactement.
Attends, t'avais pas de banane dans ton sac?
Mais si, mais en fait, la banane, j'en avais marre. Quand il fait trop chaud en Australie, la banane, elle ressemble plus à rien.
Ah donc... attends, mais la part du chocolat.
Non, t'as raison, elle ressemblait plus à rien, mais ça faisait plaisir. Et tu m'étonnes qu'après, j'avais des coups de pompe ou des coups de barre parce qu'en hypoglycémie ou en hyperglycémie. Mais c'est vrai que c'était pas quelque chose qui était intégré dans la performance. On intégrait la performance, on intégrait le poids, c'est-à-dire qu'on nous disait si on était en surpoids, en tout cas les choses pour pouvoir, on contrôlait le poids, mais on n'accompagnait pas le fait de savoir quel type d'alimentation on pouvait avoir. Et la difficulté, c'est que nous on voyageait. Et donc, dans certains pays, tu ne trouves pas ce que tu veux, en fait. Quand tu étais, il y a 20 ans, dans les pays de l'Est, pour être sûr que tu manges quelque chose, tu touchais pas la nourriture qui n'était pas cuite.
C'est quoi? Tu mangeais du riz blanc pendant une semaine?
Bah ouais, tu manges du riz blanc, tu manges une pizza, tu manges des pâtes, tu manges des patates, mais tu évitais de manger des crudités pour éviter de... Et quand tu pars en Asie du Sud-Est, autant dire que déjà, tu te brossais les dents avec de l'eau filtrée, enfin, de l'eau en bouteille. Donc, en fait, il y avait ça. Il y avait le fait de pas pouvoir manger en fonction de là où tu te trouvais. Et ça faisait pas partie de la performance. Donc, en fait, c'était tout et n'importe quoi.
Non, mais ce qu'il faut dire,
c'est que comme Philippe le disait tout à l'heure, 92 kilos. Moi, je devais. Alors, c'est une autre échelle. Si je dépassais 130 kilos, j'étais plus lent,
moins
rapide, moins puissant, etc., moins véloce. Donc, je faisais gaffe aussi. Hein, faut pas déconner. Mais Ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que quand tu fais du sport à haute dose, tu peux t'accorder, enfin, tu vois, tu grilles tout, en fait. Tu peux vraiment te permettre des écarts, parce que tout ce que tu manges, et c'est pour la raison pour laquelle on grossit quand ça s'arrête, c'est que tu crames tout ce que tu manges. Donc il n'y a pas vraiment de problème de sélection, etc. Après, c'est dans la qualité des aliments.
Si tu bien sûr, progresses, oui.
Évidemment, ça va pas, etc., etc. Mais globalement, Sarah, qui mange ses barres chocolatées, etc., etc., elle peut se le permettre, parce qu'elle fait 4, 5, 6 heures de tennis par jour, et donc ça grille. Le problème, c'est quand t'arrêtes. Voilà, le coup
oui, mais dans la récupération...
Le problème, c'est quand tu arrêtes, tu manges toujours autant, et là, tu grilles pas.
Là, le problème, il est là, en fait.
Mais il y avait quand même une réflexion, et je regrette, mais parce que c'était le temps à ce moment-là, c'est même dans la récupération, en fait, parce que tu as ce que tu brûles pendant l'effort, mais dans la récupération, nous, on jouait le lendemain, tu pouvais jouer 3-4 jours de suite, et puis tu joues dans des conditions qui sont pas les mêmes. Quand tu joues à 45 degrés en plein soleil en Australie, ou avec un taux d'humidité en Asie du Sud-Est.
Alors que c'est important, maintenant c'est primordial.
Exactement, ça fait vraiment partie de la récupération, oui. Au même titre que les bains. Non mais
Philippe, t'es manager aujourd'hui, tu surveilles beaucoup les repas.
Ouais, ah oui, on gère à peu près 50% de leur nourriture. Tous les matins, on prend le petit déjeuner ensemble et le repas de 13h ou 14h ensemble. Et durant la préparation, on a géré 70 ou 80%. Et pourtant, on est en deuxième division, bien sûr. Maintenant, les clubs professionnels gèrent la nutrition et les repas des joueurs.
Il y a des sorbets la veille de match. Il y a des sorbets la veille de match à Provence Rugby.
Quelquefois.
Mais quand tu vois que les footballeurs ont leur propre cuisinier aujourd'hui.
Ouais,
je pense que c'est pas juste un luxe.
Je trouve qu'on se prend trop la tête avec ça. On gère tout, on gère la minute de sommeil, le micro-truc, le micro-machin.
Ce qui est important surtout, c'est que, comme tu le dis, sur des intersaisons, nous, les joueurs, ils s'entraînent énormément, ils font une séance de muscu par jour, ouais. Ils font 25 bornes dans la semaine, et au contraire, c'est qu'il faut leur donner les éléments et tout ce qui est
les calories
pour qu'ils puissent et si jamais tu le fais pas, ils ne mangent pas assez. Donc souvent tu as un petit déjeuner, tu as une collation aussi. Okay, donc ouais, tu vois c'est une gestion.
C'est pas une restriction.
C'est pas une restriction, mais il faut mettre du carburant si tu veux que
voilà.
si tu veux qu'ils tiennent
et hydrater. Et hydraté. Il y a un truc que je voulais dire, c'est que moi j'ai vu des copains, même à mon époque, hein, qui étaient des bouffeurs de riz complet absolus. Enfin, j'ai rien contre le riz complet, mais enfin, tu vois, c'était des bouffeurs de graines de riz complet, etc., etc. Et franchement, la prise de tête, quand t'es trop cadré, t'es trop cornaqué, t'es trop emprisonné dans un truc, tu craques. Tu génères de la frustration, et puis quand ça s'arrête, boum, ça part dans l'excès, quoi. Donc,
ça doit être
mesuré, équilibré, tu vois.
Le plaisir de la bonne bouffe, c'est le vestiaire du joueur.
David, tes potes qui sont, je sais pas combien, c'est moins 72 kilos, moins 68, ou les boxeurs et tout. Ouais. C'est terrible, c'est que des fois, ils sont 6, 7 kilos au-dessus de leur poids, et donc les 3, ouais. 4 semaines avant la compétition, ils sont obligés de faire des efforts surhumains et c'est très complexe.
Oui, oui, mais tu vois, quand ils étaient en intercompétition, ils montaient trop haut parce que justement, ils lâchaient trop la bride. Alors que s'ils avaient une bride un peu moins dure pendant toute la saison, ils auraient moins lâché et ils auraient moins d'écart de poids à résoudre. Mais vraiment, hein, c'est un vrai sujet de réflexion.
Moi, je me souviens, à Clermont-Ferrand, j'étais avec un boxeur, donc c'était un club multisport, et donc à la fin des séances, on faisait des saunas, et lui, pour être le poids, il faisait le sauna avec nous, mais avec des kawés.
Mais oui.
Et il faisait en plus des abdominaux dans le sauna. On dit, putain, mais il dit, j'ai un combat dans 3 jours, et là, j'ai 2 kilos encore à perdre.
Alors que toi, tu rentrais avec un sorbet dans le sauna.
Non, on rentrait avec le sandwich en sauna.
Ça, c'est chaud,
après, il y a aussi une évolution sur les compléments qui se mettent dans la nourriture traditionnelle. On a beaucoup entendu parler du cas de Djokovic qui, au long de sa carrière, a changé son alimentation puisqu'il a découvert une intolérance relativement sévère au gluten, et donc il voyageait après avec son chef. C'est que quand on mangeait des pâtes, du riz, des pommes de terre ou du pain il y a 20 ans ou 25 ans, les quantités de gluten ou ce qui est digérable ont aussi évolué aujourd'hui. Donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment totalement à prendre en compte dans la performance, autant dans la récupération que la préparation. Donc c'est vrai qu'on a aussi découvert pour les sportifs des aliments qu'on disait, bah oui, évidemment qu'on mange des pâtes avant de faire une compétition. C'était le truc basique.
Ouais, ou la viande rouge, effectivement.
La viande rouge.
Les Argentins, ils s'envoyaient des gros barbecues. Bon, ils le font toujours, d'ailleurs.
Alors qu'aujourd'hui, la composante des aliments ont fait aussi évoluer les grands principes qu'on utilisait il y a quelques années.
Simon ?
Moi, ce que je trouve...
Non, mais juste deux secondes, sur les compléments, moi j'ai vu aussi des athlètes se mettre des pots de protéines dans la tête et etc. Franchement, il y a tout dans les aliments. Moi, la bouffe qui est transformée, la bouffe qui est faite avec tout un tas de... Ah, c'est terrible, mais vraiment, les produits frais, les bons produits, se suffisent à eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des pots de ceci, des compléments de cela, etc. À partir du moment où tu manges des bons produits équilibrés, et je sais que c'est pas si simple, mais que tu cuisines un peu, mais sincèrement... T'es en meilleure santé que en complémentant avec des trucs chimiques et issus de sciences plutôt marketing que d'autre chose.
Simon, sur la bonne bouffe.
Moi, en tant qu'observateur, ce que j'ai noté, c'est l'importance, l'omniprésence justement de ces thématiques, alors qu'en effet. Il y a 20, 30 ans, on n'en parlait pas, voire on en riait quand t'avais des conseils. Et puis,
on est dans les gains marginaux aujourd'hui.
Sous l'impulsion de grands novateurs, comme moi, ça me rappelle Arsène Wenger, tu sais, qui était très décrié à son arrivée à Arsenal. Et puis, en fait, les mecs se disaient, c'est quoi ce pimpin? On le connaît pas, on n'a jamais entendu parler de lui. Et puis, c'est Ray Parlour qui disait, avant, on mangeait des frites avant les matchs, on a découvert le brocoli avec Wenger. Il y a ce film avec Brad Pitt là, le stratège là, qui reprend le rôle de Billy Bean là,
dans Baseball,
le Moneyball des Raiders d'Oakland, je crois, qui a fait une saison historique.
Bon,
je vous invite à aller voir ce truc. Et parmi les innovations, il avait vidé les machines des bars chocolatés.
Il aurait mis
des fruits secs et des amandes. Les mecs hallucinaient et ça a fait partie de la légende de cette histoire. Je crois l'équipe Sky aussi sur le Tour de France emmerdait tous les hôtels du parcours parce qu'il leur fallait des frigos adapté à chaque coureur.
C'est devenu déterminant.
Guardiola, il faisait des menus différenciés selon le poste que tu occupais sur le terrain. Milieu de terrain, il mangeait pas la même chose que ses ailiers.
Djoko mange pas de gluten.
Ils amènent leur cuistot aussi en déplacement.
Ouais, et Sarah l'a rappelé. Djoko, je crois, il arrête le gluten en 2010. Il se découvre une intolérance. Et 2011, il fait une saison historique, record. Donc, faire attention à ces choses-là, à prouver l'efficacité. Moi, ce que je voulais demander, je sais qu'on manque un peu de temps aux copains, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « Ah, si j'avais mieux bouffé, si j'avais mieux fait attention, est-ce bien que sûr. J'aurais été plus performant ?» Est-ce que, finalement, à posteriori, ça laisse quelques petits
bien
regrets,
sûr.
Quoi.
Mais les gains marginaux, en fait, les gains marginaux étaient un terme qu'on n'utilisait pas. Et que ce soit le sommeil ou la nourriture, ça rentrait pas dans le gain de la performance à l'époque. Donc en plus,
non,
moi je suis un tout petit gabarit. Donc tout petit gabarit, quand tu joues une fille qui s'appelle Lindsay Davenport, qui fait 1m84 et qui te fait deux fois son poids et qui fait 50 à l'ombre. Ouais. Enfin, je veux dire, la dépense énergétique, si tu la compenses pas, j'avais peut-être une autonomie de 40 minutes que j'aurais pu peut-être repousser. Donc, il y a plein de si. En fait.
Philippe, tu ne regretteras rien.
Non. Et puis en plus, nous, on a quand même la culture du barbecue. Et...
Ouais.
Non, mais c'est vrai.
On l'a surnommé le Gorée pour.
La culture de la troisième mi-temps.
Non, mais la culture du barbecue dans une équipe de rugby, même en pré-saison, les mecs ils bossent, ils font attention. Et à la fin de semaine, s'ils ont bien bossé, ils bouffent un barbecue ensemble. Et ça aussi, il y a des liens. On est un sport collectif.
Et
on a besoin aussi de bien vivre ensemble et d'être bien ensemble. Donc, non. Moi non, et je suis sûr que toi, David,
est-ce
que tu aurais été triple champion olympique en bouffant des brocolis et des choux-fleurs,
petit gourmand.
Non, Non, moi, j'aurais été triple champion olympique si j'avais pas eu, si j'avais pas fait de moto pour le coup. Voilà. Mais c'est autre chose. Mais non, mais bien sûr que non. Par contre, je dois être tout à fait honnête que quelquefois il m'est arrivé le midi de craquer sur un repas un peu plus lourd que d'habitude. Et je t'avoue que l'entraînement de la première demi-heure de l'entraînement de l'après-midi, waouh, c'était compliqué. C'était compliqué. Il fallait.
Non, mais attends, t'as
il fallait après quelques dégazages. Je vous épargne les détails. Et pour mes partenaires d'entraînement, il fallait une bonne demi-heure d'adaptation. Et puis après, ça se remet en route.
Et de ventilation.
Bon, c'est tout. C'est juste la seule contrainte. Voilà.
On vient de comprendre la recette du succès de David Douillet, en fait.
Il n'arrivait pas à trouver de sparring partner.
Comprends. J'en ai beaucoup mangé avant. Je suis arrivé, j'ai gazé tout le monde. J'ai intoxiqué tout le monde. On va refermer donc, comme ça la porte du vestiaire. On s'attendait pas à la refermer comme ça. Mais du coup, comme ça, on va masquer les odeurs. En cuisine avec Vanessa, David Douillet, édition Flammarion, 80 recettes au quotidien. Ça, c'est très sérieux. Et on continuera de parler de la nourriture parce que c'est un vaste sujet dans le sport de haut niveau. Et on a plein de thématiques à évoquer avec vous, évidemment, sur votre carrière. Arrêtez tout, c'est énorme.
RMC vous offre 120 000 euros.
Non, vous inquiétez pas, c'est pas parce que David Douillet a trop mangé qu'il faut se mettre tous aux abris. Non, c'est parce que c'est le moment de jouer et de remporter 120 000 euros. Une somme exceptionnelle jamais remportée sur RMC. C'est 100 000 euros pour vous, net d'impôts, versé directement sur votre compte. Et en plus, on offre 20 000 euros à la personne de votre choix. Si quand on l'appelle, la personne de votre choix, elle répond qu'elle écoute RMC. Donc là, c'est attention, hein, c'est important hein, quand même hein, de dire écoutez RMC aux gens que vous allez citer. Pour cela, envoyez-les maintenant RMC au 732-16. RMC au 732-16. Faites-le vite, vous avez 10 minutes. Il est 11h29, vous avez jusqu'à 11h39. Dans quelques instants, on va revenir sur la victoire du 15 de France face à l'Australie. On se posait la question tout à l'heure, est-ce qu'on était rassuré ou pas désormais? Est-ce que Fabien Galthié sort fragilisé de cette tournée? On en parle dans quelques instants avec vous au 32-16. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Dans un instant, les jeux du sport avec vos GG, David Douillet, Philippe Saint-André, Sarah Pitkowski et Simon Dutin. Quel GG connaît le mieux le sport? On va voir. Et puis je vous rappelle qu'il ne vous reste que quelques minutes pour vous inscrire et remporter 120 000 euros. 100 000 euros pour vous et 20 000 euros pour la personne de votre choix. Envoyez dès maintenant RMC au 732-16. RMC au 732-16. C'est très important parce que c'est vraiment sur ce laps de temps hein, qu'il faut envoyer. Donc c'est le moment d'y aller franchement. Allez, tout de suite les GG, on passe le sélectionneur du 15 de France sur le grill.
RMC, les GG sur le buzzer.
On n'est pas au même niveau qu'il y a 4 ans, a reconnu Fabien Galthié, sélectionneur du 15 de France, au moment de dresser le bilan de cette tournée d'automne. Hier, on a beaucoup parlé déjà tout à l'heure, hein, je vous invite à retrouver la première heure en podcast des Grandes Gueules du Sport. Une défaite de 15 points, supériorité numérique face à l'Afrique du Sud, succès difficile contre les Fidji, une victoire plus spectaculaire, mais accrochée hier soir contre l'Australie, 48-33. Le sélectionneur des Bleus, on le sait, a été observé sur cette tournée, sur son management, ses choix tactiques de capitaine, mais aussi sur sa communication, qui a pas tout toujours été heureuse peut-être ces trois dernières semaines. Les GG, je vous pose cette question. Fabien Galthié sort-il fragilisé de cette tournée? Philippe Saint-André?
Non, bien au contraire.
David Douillet?
Non, pas du tout.
Simon Dutin?
Oui, un peu. Oui.
Ah oui, un peu. Oui. Ça va, salut.
Salut. Conviction.
Salut, c'est Johnny.
Oui, un petit peu.
Sarah?
Non.
Supporter du 15 de France, on vous attend évidemment au 32-16. Envoyez vos messages au 06 12 424 424. Non, il est même renforcé, tu as dit, Philippe. Pourquoi?
Parce que après le match contre l'Afrique du Sud, c'était la première fois sous le mandat de Fabien Galthié qui avait 4 défaites. Et ben, il a su trouver les mots, il a su changer aussi certains joueurs pour gagner contre les Fidjiens. Et surtout pour gagner contre l'Australie, pour être tête de série pour la Coupe du Monde. En plus, ça fait 6 ans qu'il est en équipe de France. Il connaît bien les joueurs. Il connaît aussi les gros potentiels. Et puis en plus, c'est pas, on va dire, dans le rugby français, jamais normalement on débarque un sélectionneur à mi-mandat. Alors après, par contre, Simon, moi, je trouve que c'est compliqué. Le 15 de France vous a-t-il rassuré? Il dit oui. Et puis après,
et
après, il dit que Galtier est fragilisé. Donc, le fait que c'est assez complexe parce que tout à l'heure, tu disais que c'était exceptionnel, que c'était beau, qu'on a vu des trucs fantastiques. Et puis maintenant, tu dis le contraire. Je veux t'écouter.
Mais moi, je défends Fabien Galtier parce que justement, ça m'aurait.
Ah, tu défends.
Ah, je défends Fabien Galtier, oui, tout à fait.
Mais non, là, tu le défends pas. Tu dis qu'il est fragilisé.
Ah, ben, dire qu'il est fragilisé. Je peux être le plus proche au monde de Fabien Galtier. Je peux, tu vois, et déplorer le fait qu'il soit fragilisé. Le fait qu'on ait ce débat maintenant est en soi une preuve qu'il est fragilisé, puisque pour moi, il n'y a aucune question à se poser. Fabien Galtier, depuis que je m'intéresse au rugby, est le meilleur, tu me pardonneras, le meilleur sélectionneur de l'histoire de l'équipe de France.
Ah oui.
En termes de résultats, en termes d'innovation,
débat,
de ce qu'il a produit, il nous a amené au sommet du rugby mondial. On a battu toutes les équipes sous son mandat. Non, mais pour moi, j'accorde pas autant d'importance à la Coupe du Monde.
À la Coupe du Monde, non, c'est pas important. Attendez, excusez-moi, je pense qu'il faut tous qu'on se mette d'accord, les auditeurs. La Coupe du Monde, c'est pas si important. Hein. Voilà, au moins, c'est un débat qu'on aura plus jamais.
Il n'y a pas de problème.
Oh, je te vanne, Simon. Non, mais pourquoi
débat dans cette émission, et parfois, il faut un petit peu de courage.
Pourquoi tu trouves
ses convictions. Je sais que ça parle pas à tout le monde, mais de temps en temps.
Donc, mais pourquoi fragiliser alors?
Mais parce que ça fait. On n'avait pas eu encore de rassemblement. On affronte la meilleure équipe du monde, peut-être de tous les temps, de la vie de certains spécialistes. Les mecs passent trois jours ensemble. On n'a pas nos meilleurs joueurs.
Pas trois jours. 15 jours.
Et on se fait battre comme tout le monde cette année par les Sud-Africains. Et on est déjà à se demander, oui, Galtier, démission, dehors, il faut tout changer. Cette équipe de France ne vaut rien. Donc rien. En soi, c'est déjà une façon de fragiliser le travail d'un sélectionneur qui est conscient, il l'a rappelé hier, des limites actuelles de son équipe et du fait qu'ils ne sont pas au même niveau qu'il y a 4 ans. J'ai été en effet rassuré par ce que j'ai vu hier et globalement par la montée en puissance de cette équipe. Voilà, il est fragilisé parce qu'on va encore instruire ses choix, on va se demander si Ficou a encore un avenir dans cette équipe de France, on va se demander s'il n'a pas fait une bêtise en ne mettant pas Loukou
en mettant Aldrit en tribune contre l'Afrique du Sud.
J'ai critiqué ce choix, mais oui, il est fragilisé. On va parce qu'on va passer notre temps à se demander s'il est encore l'homme de la situation jusqu'à le tournoi destination. Et si on fait pas le grand chelem dans destination, on va se demander s'il faut pas changer de sélection.
Il n'est pas fragilisé après les deux dernières victoires.
Ce que je veux dire, c'est que quand je dis qu'il est fragilisé, c'est que il y a plus l'état de grâce dont il bénéficiait jusqu'à il y a.
Mais c'est normal, ça fait 6 ans qu'il est là.
Est-ce qu'il y avait un état de grâce?
Didier Deschamps. Maintenant, voilà, il a pourtant tout gagné et les gens, ils en ont marre.
Et puis voilà, comme ça. J'ai répondu oui, il est fragilisé, il faut bien qu'il y ait un débat. Vous dites tout non. Voilà, vous connaissez le principe de l'émission.
Ah, voilà le secret.
Salut, c'est Jean-Michel sans conviction.
J'allais pas lâcher Georges Maxime comme ça.
Non, mais David, pourquoi tu trouves qu'il n'est pas fragilisé, toi, le sélectionneur?
Bah parce que il essaye des choses. Enfin, moi, pour moi, j'en reviens toujours. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est justement ces tournées, etc., sont faites pour construire une équipe. Donc tu tentes, tu essayes des choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Il y a des et je trouve que la coloration qu'il a donnée là dans ses choix stratégiques, et Philippe l'a très bien expliqué tout à l'heure, c'est qu'il met des jeunes en place, il laisse des vieux assumer leurs responsabilités, il sort les anciens, il leur donne des signes, etc. Il est en cours de construction, et je trouve que cette construction, elle est plutôt intelligente et productive. La preuve, parce que le match, on voit l'issue du match d'hier. Donc tout ça, c'est une construction au fil du temps pour nous amener à la meilleure équipe, à la prochaine Coupe du Monde. Et c'est ça le plus important. Donc c'est pas un entraînement qui est fragilisé, c'est un entraîneur qui fait bien son job, c'est tout. Moi, je dis que un très bon entraîneur, c'est quand il a la chance aussi d'avoir une génération et le choix, le luxe de se permettre d'avoir un vivier conséquent. Voilà. Et il n'y a pas de meilleur entraîneur, de meilleur sélectionneur, etc., etc. C'est difficile de comparer les générations par rapport à l'autre. Tu peux être le meilleur sélectionneur du monde, mais si tu n'as que des bourricots à mettre en équipe,
effectivement.
Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, le meilleur sélectionneur, c'est celui qui aura justement cette justesse de sélectionner de ciseler une équipe avec la plus de cohérence possible et puis de savoir manager les différentes psychologies pour faire les que égos, la mayonnaise prenne et pas forcément en prenant les meilleures individualités.
Je remarque l'importance de parler de mayonnaise. Effectivement, ce matin, il est beaucoup question de cuisine.
Pas facile à faire.
Avant de t'écouter, Sarah, on a Jean-François qui nous appelle au 32-16, supporter du Stade Toulousain. Tiens, salut Jean-François.
Ouais, bonjour Sarah, bonjour les GG.
Toi, tu trouves que Galtier sort fragilisé de cette tournée, pourquoi ?
Mais encore heureux qu'il sort fragilisé de cette tournée. On a le sélectionneur qui a les meilleures conditions de travail possibles et inimaginables. Il a les joueurs à disposition, des premiums, des protégés, des surprotégés. Il a des joueurs extraordinaires à tous les postes. Notre demi-mêlée remplaçant, Lucu, serait titulaire dans n'importe quelle nation au monde. Il a pléthore de joueurs. Demandez à Philippe s'il avait les mêmes conditions de travail quand il était sélectionneur. Exactement. Demandez à Philippe s'il avait autant de matos en tant que joueur quand il était sélectionneur. Il a un talent fou à tous les postes. Il n'y a pas un poste qui est faible. Il a les conditions de travail extraordinaires. On joue des nations, à part l'Afrique du Sud et l'Irlande, qui sont vraiment d'un bon niveau. Les autres nations, c'est Qatar. On a joué des Australiens. J'ai jamais vu des Australiens aussi mauvais depuis des années et des années. La Nouvelle-Zélande, une mauvaise génération aussi. Donc, bien sûr que Galtier sort fragilisé d'une tournée d'automne, de pas réussir à faire mieux. On est en automne, les autres, ils sont rincés, cuits. Et nous, on arrive là, on n'a pas beaucoup de temps, on est magé. Non! Avec le matos que tu as, les conditions que tu as, tu dois faire mieux.
Excellent, Jean-François, au 32-16. Ouais. Sarah, t'es pas d'accord?
Quand je dis pas fragilisé, je dis pas fragilisé parce que Philippe le disait, dans la culture du rugby, on n'écarte pas un sélectionneur, en fait. On ne remplace pas au pied levé un sélectionneur. Donc, dans ce cadre-là, je le trouve pas fragilisé. En revanche, c'est un Fabien Galtier qui, depuis 2020, doit quand même bien changer sa manière de voir les choses. Quand il est arrivé, c'était pas des certitudes, il avait des mantras qu'il ne voulait pas bouger avec cette fameuse équipe premium qui était celle qui l'emmènerait jusqu'en 2023, coûte que coûte.
C'était pas vraiment un pragmatique, effectivement. Il voulait mourir avec ses idées.
Exactement. Et en fait, depuis 2023, on sent que, les lignes, elles bougent parce qu'il y a cette déception, cette énorme déception de ne pas avoir été au bout de cette Coupe du Monde et d'avoir perdu contre l'Afrique du Sud. Et là, quand tu vois ces interviews, tu sens que il hésite et on le disait, Philippe, c'est-à-dire qu'on en est même à se demander, les joueurs qu'il fait jouer aujourd'hui, est-ce que ce seront ces mêmes joueurs-là qu'il va devoir amener jusqu'à la prochaine Coupe du Monde ou est-ce qu'il doit en changer déjà maintenant? Mais c'est difficile, un joueur qui a entre 25 et 30 ans, de savoir si dans 2 ans, il sera toujours aussi efficace qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc on sent que ces mantras, ces certitudes, elles sont en train de bouger. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'est pas menacé, parce qu'on sent qu'il bouge lui aussi.
Philippe. Alors pour répondre à l'éditeur, c'est vrai qu'il a les meilleures conditions de travail. Jamais un sélectionneur en équipe de France a eu ces conditions-là. Par contre, où je trouve qu'il a été bon sur cette fin de tournée, c'est qu'on l'a critiqué énormément sur le coaching contre l'Afrique du Sud, et que les joueurs qui étaient rentrés n'avaient pas apporté la plus-value qu'on aurait espéré. Hier, ces rentrants ont été bons, il a changé, il a fait des choix, il y a des joueurs qui sont rentrés contre l'Afrique du Sud qui ont été hors groupe depuis, il a trouvé certains jeunes joueurs, il a eu, on va dire, les coronets, par exemple, de mettre le jeune Gourgue, trois quarts centre du Stade Toulousain, pour la première saison où il est titulaire avec le Stade Toulousain, et hier, il rentre sur le premier ballon,
et
il fait 60 mètres.
Il remet en question la sélection de Ficou, pourrait, à terme.
Donc, là-dessus, on peut pas dire qu'il a pas bien fait son travail, sur le fait que contre l'Afrique du Sud, on a été dominé, en plus à 15 contre 14, mais il a su trouver des solutions, mettre des joueurs en compétition, changer son banc pour amener de la plus-value, et la plus-value hier contre l'Australie, les rentrants à la 60e ou 62e
minute. La plus-value, c'est le coaching hier.
Voilà, le coaching a été très bon, on a été plus disciplinés les 20 dernières minutes, on a été plus réactifs, on a été même dominants en mêlée, ce qui n'était pas le cas depuis quelques matchs, donc là-dessus, sincèrement, il a fait le job.
Il a fait le job pour toi, Fabien Galthié. Philippe, Fabien Galthié est-il fragilisé? Sort-il fragilisé de cette tournée? Vous êtes quand même globalement à dire non. On remercie Jean-François qui a été excellent au 32-16 pour nous avoir appelé participer à ce débat. Tiens, avant de se quitter, juste le ski. Léna Marjac, le slalom féminin à Görgl en Autriche. On en est où dans cette première manche?
Deux Françaises ont réussi à prendre donc la qualif pour la seconde manche. Il s'agit de Marie Lamure avec le 17e temps et Marion Chevrier avec le 25e temps. Donc on va voir ça tout à l'heure à partir de 13h30. Et Michaela Schifrin, l'américaine au 102 victoires, a remporté cette première manche devant Lara Colture avec 3 dixièmes. Et genre, juste pour te dire, il n'y a que seulement 4 femmes qui sont dans la même seconde que Michaela Schifrin. Derrière, il y a de très très gros écarts. Schifrin un peu seul au monde encore une fois sur ce slalom. Donc,
comme souvent, effectivement. Oui. Merci Léna, continue de suivre ça avec toi tout au long de la journée. Je rappelle juste pour le rugby, vous pouvez vous abonner à votre podcast Rugby RMC Entre les poteaux demain, notamment pour revenir sur cette tournée. On revient dans un instant pour les jeux du sport. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport, Darlene Droit, tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
C'est du 2 contre 2, vous allez défendre un auditeur. Répartition des équipes.
2 contre 2, vous allez dans les deux.
Simon Dutin avec David Douillet, Sarah Pitkowski avec Philippe Saint-André.
Allez mon David.
Je vous rappelle que vous pouvez activer.
Bien bossé.
Je vous rappelle que vous pouvez.
Il va y avoir du rugby. Hein,
vous pouvez activer, je vous rappelle, une question impossible. Seul un joueur peut l'activer par émission et il joue tout seul. Une bonne réponse, c'est 2 points. Une mauvaise réponse, vous perdez 1 point. Mais c'est une question assez chaude.
Oui, mais dans notre sport de prédilection.
Dans votre sport de prédilection,
c'est là que
exactement.
L'attention est importante.
Ça a été activé par Cédric Aymance hier. Il s'est manqué.
Pas de beaucoup. Hein. Pas de beaucoup.
On accueille les auditeurs, Franck et Juan. Bonjour Franck et Juan.
Bonjour. Les gars.
Franck, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe. Tu veux être avec David Douillet, Simon Dutin ou avec Philippe Saint-André
et David Douillet.
Avec David Douillet. Il va être avec David Douillet. Voilà. Donc Franck.
Il n'y a pas que des questions cuisine, on est bien d'accord.
Non, non. Faut-il mettre de la crème dans la carbonara?
Mascarpone.
Allez, je vous rappelle qu'il y a un maillot rugby sport des POC Australie 1908 à gagner aujourd'hui. Allez, c'est parti. Question à une seule réponse. Le 15 de France ne va plus jouer jusqu'au tournoi des 6 nations. Qui sera le premier adversaire des Bleus?
L'Irlande.
Simon Dutin a été le plus rapide. 1-0 pour l'équipe Dutin Douillet. Question à une seule réponse. Qui est le dernier champion du monde avec McLaren en Formule 1? Avec McLaren, le dernier champion du monde pilote. McLaren Mercedes à l'époque. McLaren Mercedes, 5, 4.
Berger.
3, 2, 1. Mais les gars, vous craquez, vous voyez Lewis Hamilton. Berger. Lewis Hamilton.
Non, mais
incroyable. Franchement, je suis déçu. Ah ouais. Question auditeur, c'est pour vous, Franck et Juan. Vous donnez la réponse et vous donnez votre prénom derrière. Ok pour vous?
Oui.
Allez, quelle est l'affiche de Ligue 1 ce soir à 20h45?
PSG.
Non, il fallait l'adversaire en plus. Non, 5, 4, 3, 2, 1. Vous ne l'avez pas. Non, c'est Lille-Paris FC. On reste à 1-0. C'est chaud hein, ce soir. L'affiche. Est-ce que c'est une affiche entre Lille et Paris FC? Toujours en Ligue 1. 1-0 toujours. Question à une seule réponse. Le plus proche l'emporte, les GG. Sur ces 3 matchs de l'automne, combien de points a marqué le 15 de France? Une seule réponse. Le plus proche l'emporte. Attention, sur ces 3 matchs de l'automne, combien de points a marqué le 15 de France?
102.
102, dit Philippe Saint-André. Allez, je veux des réponses rapidement.
95.
95. 121. 121. David?
130.
La réponse est 97, donc c'est Sarah qui est la plus proche. Un partout.
102, 97.
Bah 95, elle est à 2 points.
T'as 95.
Vous, bravo, vous êtes ensemble.
On joue ensemble.
Ouais.
C'est bien. Non, mais je sais, on joue ensemble.
Je faisais mon addition.
C'est son addition.
Le pire menteur du monde. Non, mais je sais qu'on joue ensemble. Incroyable. Question à une seule réponse, les amis. Australie-France, c'était aussi la finale de 99. Quel était le score exact?
Philippe, c'est pour toi, ça.
Le score exact de Australie-France en 99.
Aucune idée.
C'est la finale?
Ouais, bah oui. C'est Grigaine du temps. Non, 5. 19-16. 4, 3.
18-12.
2,
25-30.
Non, c'était 35-12. En fait, c'est fou, mais cette 99, on se souvient des All Blacks.
On se souvient de la demi-finale.
Ouais, la demi et la finale, on l'a complètement zappé. Toujours un partout.
Ah, le score, exact.
Question auditeur, c'est pour vous, Franck et Juan. Votre réponse et votre prénom, s'il vous plaît, derrière. Qui a remporté le Grand Prix de Las Vegas ce matin en Formule 1?
Verstappen.
Qui a dit Verstappen en premier?
Franck.
C'est Franck.
Non.
C'est non, Franck rigole, donc c'est Juan.
C'est Juan.
Donc ça fait 2-1 pour l'équipe Pitkowski. Saint-André. C'est fou, ils sont comme Christophe Cessieu, ils essaient de tricher. Question élimination, chacun répond à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé. Oh là là. Citez-moi, alors qu'on va apprendre peut-être que Zidane sera nommé au printemps, on va le savoir très rapidement. Citez-moi les sélectionneurs de l'équipe de France de football depuis 1964. David Douillet, c'est toi qui commence. Les sélectionneurs de l'équipe de France depuis 64.
Putain, j'ai un problème avec les noms en plus.
David, sélectionneur de l'équipe de France de foot. Donne-moi en un.
Ah zut. Oui, bah attends, j'ai pas la mémoire des noms, mais.
Actuellement.
Deschamps.
Non, mais pardon, tu t'es obligé d'arrêter ce moment.
Deschamps, non, mais j'étais fixé sur quelqu'un d'autre.
Sarah.
Henri Michel,
bien sûr. Simon.
Michel Hidalgo.
Philippe Saint-André. Philippe. Un sélectionneur de l'équipe de France de foot. 5. 4.
Domenech,
bien sûr. David.
Ah, c'est celui qui cherchait. Ah ouais. Aimé Jacquet.
Facile. Attendez, vous m'avez fait peur. Sarah.
Attends, j'ai un truc mémoire.
Ah oui, mesdames. Bah,
Platini,
bien sûr. Simon.
Roger Lemaire,
oui. Bien sûr. Philippe Saint-André.
Henri Michel,
déjà dit. Éliminé, Philippe. David. 5. 4. 3. 2. 1.
Blanc.
Bien joué, ça reste. Sarah.
Je n'en ai plus, là.
1. 5. 4. 3. 2. Éliminé. Il y a eu aide de Philippe Saint-André, Simon.
Jacques Santini,
c'est bon. De toute façon, il ne reste plus que vous deux. On en est à 3-2 victoire de l'équipe Dutin Douillet.
C'est
2 points, question élimination. Victoire de l'équipe Dutin Douillet. Franck, c'est donc toi qui remporte le maillot sport d'époque, Australie 1908. Ah, félicitations. T'as bien fait le choix, David Douillet. Il a fait la différence.
Ouais, tu parles.
Jouez au jeu du sport sur RMC avec Sport d'époque. Des maillots qui ont de la gueule, comme le rugby d'hier et d'aujourd'hui. Maillot de rugby haut de gamme, fabriqué en France avec passion.
Félicitations Simon Dutin qui lève le bras comme
Raphaël Nadal. Ça devient une habitude, tu sais.
Félicitations David Douillet qui apparemment prépare ses plats pendant les grandes gueules du sport. Parfois on l'a appris l'autre jour dans Anaïs ce matin et parfois il y a des choses qui brûlent.
Exactement.
Sur la poêle. T'as préparé
le
quoi?
Le poulet est au four.
Merci Sarah Pitkowski. Merci Philippe Saint-André. Vous retrouvez les grandes gueules du sport évidemment en podcast. Tout de suite les paris RMC, restez avec nous.